Thème et Anathème, une émission proposée par Yolande Gounel.
Dans l'émission que vous allez entendre, il est fait état de Antigone qui aurait subi un supplice comme la fille de Jephthé. Il s'agit évidemment non pas d'Antigone, mais d'Iphigénie.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je me garderai bien de présenter mon invité, Luc-Olivier Bossé, à nos auditeurs, car Luc-Olivier est un fidèle contributeur de notre radio depuis d'ailleurs un certain temps.
Mais c'est trop d'honneur.
Alors, je me contente de vous dire que maintenant, Luc-Olivier, qui était pasteur à Montpellier, est secrétaire national à l'évangélisation pour les PUDF et qu'il est mon invité aujourd'hui. Alors, bonjour Luc-Olivier.
Bonjour Yolande.
Alors, vous avez soutenu une thèse en théologie qui s'intitule « Bâtir à nouveau le méta-récit chrétien ». Alors, c'est très impressionnant parce que je ne savais pas ce que c'était qu'un méta-récit chrétien. Alors, vous allez...
Alors, ce n'est pas un terme qu'on utilise tous les jours. Hein.
Oui. Alors, vous pouvez le définir plus précisément.
Oui. Alors, aujourd'hui, on entend beaucoup plus parler de récit. Parce que quand il nous faut motiver une action, un agir, une politique... une vision du monde, on dit il faut développer un récit. Parce qu'on a perçu dans notre culture qu'il ne s'agissait pas simplement d'argumenter, de mettre des chiffres, des bases de manière très rationnelle. Il faut raconter quelque chose parce que c'est ça qui permet de mieux comprendre. C'est ça qui permet aussi de donner de la chair, de la spécificité, de la singularité dans la vision du monde qu'on propose. La modernité, à partir de Kant, a plutôt parlé de Weltanschauung, c'est-à-dire de vision du monde. Et en fait, chaque culture porte une vision du monde. Chaque religion aussi porte une vision du monde. Simplement, le mot vision du monde, quand on dit voir et tout ça, on a l'impression d'être au sommet d'une montagne et puis de voir un panorama à 360 degrés. Ou bien d'être au sommet, du Canigou ou du Pic Saint-Loup et puis de voir tout autour. Et c'est en fait quelque chose d'un peu statique, la vision du monde. Comme si tout d'un coup, on avait tout en même temps. Tandis que le récit, ça permet de déployer dans le temps quelque chose.
Et puis il est basé sur des mots, le récit.
Bien sûr, il est basé sur des mots, il est basé sur des concepts, il est basé sur une façon aussi de conjuguer les mots, de conjuguer les différentes idées. Et le récit est quelque chose de beaucoup plus dynamique, parce qu'il ne s'agit pas de dire en un claquement de phrase toute une vision du monde. Il s'agit de raconter quelque chose, il faut donner de l'épaisseur et ça prend du temps de raconter. Donc du coup, le récit va mieux pour mobiliser quelque chose. Ça nous permet de plus aller dans la finesse, peut-être dans la complexité des choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de récit.
Oui, mais le méta-récit,
Alors, méta, c'est une particule grecque qui est aussi, on le retrouve dans métamorphose, par exemple.
En géologie, par exemple.
Oui, en géologie, et en fait, les métadonnées, par exemple, en informatique. Et l'idée de méta, c'est de dire au-delà, métaphysique aussi. Donc, oui. C'est au-delà, c'est-à-dire, c'est un récit qui a un peu, on va dire, plus fondamental que les petites histoires qu'on peut raconter, que je raconterai au jour le jour, que nous racontons les uns les autres en fonction d'une situation. Le méta-récit, c'est le récit de fond, c'est-à-dire... quelque chose qui nous permet de prendre du recul sur tout ce qu'on entend comme récit et qui nous permet à la fois de les situer, c'est-à-dire de prendre distance avec eux, de ne pas être englué dans ces différents récits, et puis aussi d'avoir une posture critique. Méta, c'est cette idée de... On se met un petit peu au bord du chemin et on regarde et on re-réfléchit à la question. Avant de raconter, on réfléchit à ce qu'on va dire. Et parce qu'il n'y a pas qu'une façon de raconter, il n'y a pas qu'un récit. Et on voit bien en politique, chaque courant idéologique a son propre récit sur une même réalité, sur une même situation. La question, par exemple, éminemment importante aujourd'hui des retraites, on voit bien que parmi le panel des partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale, il n'y a pas le même récit. C'est-à-dire que sur la base des mêmes éléments, sur la base du même vécu commun, on a tous vécu les différentes étapes, le récit n'est pas le même. Les priorités qu'on met en avant et la façon dont on raconte les choses pour motiver une priorité plutôt qu'une autre.
Donc,
Voilà, ça c'est le méta-récit, c'est-à-dire un récit plus fondamental que tout ce qu'on entend et qui nous permet d'avoir un petit pas de côté, une petite distance critique sur tout ce qu'on entend.
Alors moi j'ai trouvé une définition, vous allez me dire si vous êtes d'accord, je ne sais plus où je l'ai trouvée, qui me l'a donnée, peut-être que je l'ai lu d'ailleurs dans votre thèse ou quelqu'un d'autre me l'a donnée, je ne sais plus. Un méta-récit est un discours majeur qui intègre d'autres discours en forgeant une vision du monde.
C'est ça.
Et là on retrouve la vision du monde dont vous parlez tout à l'heure.
C'est ça.
Alors moi j'aime bien l'idée de mettre en mots la vision du monde, finalement.
Exactement. C'est comme si, par exemple, on avait un magnifique tableau, un magnifique panorama, et plutôt que de donner une photo à voir, on raconte ce que l'on perçoit, et en faisant des zooms sur différents éléments. C'est ça, au fond, l'importance du récit. Et ça permet à celui qui écoute de cheminer aussi à son propre rythme pour entrer dans cette histoire. Le récit, ce n'est pas simplement une narration qui est racontée, hein. Ça peut être aussi quelque chose d'écrit et que l'on prend le temps de lire. Et il nous faut parfois longtemps pour arriver au bout du récit et avoir perçu l'ampleur de cette... Et le méta-récit, c'est de dire, bah justement, c'est un récit de grande ampleur. Vous savez, bon, je suis pasteur, et au fond, quand j'étais à Montpellier, mais aussi quand j'étais à Hermont, dans le Val d'Oise auparavant, régulièrement, presque tous les dimanches, il m'arrivait de prêcher. Et donc, je me frottais aux textes bibliques, je me confrontais à eux. Simplement... je voyais bien, en me relisant quelques mois après, que les dimanches avaient beau évoluer, que les textes avaient beau évoluer. Finalement, je racontais un peu toujours la même chose. Je mettais moi-même mon propre agenda en avant, ma propre vision du monde. Et le méta-récit, c'est au fond une façon de s'interroger et de se dire, est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon de voir les choses, afin de ne pas toujours répéter? Parce que là, les paroissiens, les auditeurs, ils perçoivent peut-être plus rapidement que le pasteur ou que le prêcheur le méta-récit. C'est-à-dire que quelqu'un qui écoutera trois fois un pasteur, par exemple, il aura une idée de sa vision du monde qu'il met en avant. Le pasteur n'en est pas nécessairement conscient ou lui-même ne dira pas « voilà, j'appartiens à ce camp ou à cette manière de raconter les choses ». Mais ça, on porte ça en soi. Et donc, en m'intéressant à cette question au cœur de ma thèse, c'était aussi une façon de prendre distance par rapport à ma propre pratique et de me dire, mais bon sang, bonsoir, la tradition chrétienne, c'est un trésor qui est vraiment profond, qui est vraiment riche. Et je n'aurais pas envie de rester toujours dans les mêmes ornières, à raconter toujours les mêmes choses, à mettre toujours en avant les mêmes problématiques. Il me semble qu'il y a aussi d'autres façons de voir les choses. Et c'est pour ça que je suis parti en quête d'autres visions du monde, d'autres méta-récits, en me frottant à des théologiens contemporains.
Alors, pour résumer, selon ce que j'ai cru comprendre, le méta-récit, finalement, permet d'une part d'évoluer et de faire passer aussi son évolution par rapport à un texte en le reliant au monde qui nous entoure aussi.
Exactement. Et je crois que l'enjeu, les textes bibliques,
oui.
La Bible,
oui.
Elle ne bouge plus.
Ben non.
Et heureusement.
Oui.
On ne va pas commencer
Oui, non, ça serait compliqué.
Ça serait compliqué, oui. Et à mon avis, ce serait aussi mal...
Oui, pervers.
Oui, voilà.
Oui, pervers, ça pervertirait le sens.
Exactement. Et donc, du coup, dans la tradition chrétienne, il y a l'idée de l'autorité des Écritures. Mmh, c'est-à-dire, on reconnaît les textes, même si ça nous dérange. Il y a des passages bibliques, mais ils sont horribles.
Oui, oui, oui.
L'histoire de Jephté avec sa fille, c'est
oui,
horrible.
Oui, 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 oui.
Mais en fait... on n'y touche pas. C'est-à-dire qu'on traduit, on garde le texte original tel qu'on l'a compris avec le recoupement des différents manuscrits, et puis on transmet. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le récit est avec, c'est-à-dire que la manière de raconter. Et le récit, le méta-récit, si vous voulez, c'est le logiciel. C'est-à-dire que les écritures sont données, mais les connexions entre le livre de la Genèse et les évangiles, ça, c'est pas donné. Les articulations entre le prophète Ésaïe, les annonces du prophète Ésaïe, et puis la manière dont les chrétiens ont relu ça en citant le prophète Ésaïe dans les évangiles, c'est une façon de faire. Mais on peut aussi questionner ça. Et le méta-récit, c'est cette interrogation sur le logiciel. Quel est le logiciel? Ou on pourrait prendre une autre image, quelles sont les lunettes que je chausse quand je lis les textes bibliques? Parce que, de fait, j'ai une façon de les interpréter.
Bien sûr. parce que je reprends l'histoire de la fille de Jephté, c'est particulièrement, comment dirais-je moi, tragique. C'est insupportable, plus à notre époque qu'à d'autres époques où c'était des pratiques courantes que de sacrifier des enfants, ou, etc. Donc il y a une notion, on prend aussi les textes vis-à-vis des femmes, à certaines époques ça ne choquait pas, maintenant ça choque. Le métarécit permet de relier ça à notre époque et de critiquer le...
Exactement, c'est-à-dire le métarécit, c'est comment respecter ces textes sans chercher à les tordre pour leur faire dire ce qu'ils ne disent pas, donc les respecter, mais aussi comment entendre dans ces textes quelque chose qui m'invite à penser, qui puisse approfondir ma vision du monde, qui puisse renouveler ma foi. Et le métarécit, c'est ça. C'est-à-dire l'interprétation, la grille de lecture que je vais faire. Comment mettre un peu méta, comment mettre à distance l'histoire de Jephté pour pas l'utiliser comme une sorte de « c'est écrit dans la Bible, ça viendrait légitimer des, pratiques horribles d'aujourd'hui ».
Non,
ce texte, il a aussi été dans son contexte provocateur, il a créé des réactions et tout. Et donc, c'est de voir comment l'histoire des théologiens, des croyants, eh bien, comment les uns et les autres, parce que c'est ça aussi la richesse que nous avons, c'est qu'on ne commence pas aujourd'hui la foi chrétienne, elle a des siècles d'histoire. Donc, comment ceux qui nous ont précédés ont interprété ça ? Et de voir aussi aujourd'hui, par rapport aux questions contemporaines, par rapport à notre actualité, par rapport à cette question de la place des uns et des autres dans notre société où il y a une égalité, aujourd'hui, égalité homme-femme.
Oui.
Donc, comment, à partir de là aussi, écouter le texte avec notre esprit critique, avec aussi la somme des connaissances qu'on a pu récolter sur le Moyen-Orient ancien, sur les traditions lectures, sur des récits qui peuvent être similaires dans d'autres cultures. Comment est-ce qu'on interprète tout ça de manière à ce qu'on entende quelque chose, et là c'est le pasteur qui parle, qui teinte à la couleur de la bonne nouvelle. Et donc, ça, c'est toute une démarche. Et le métarécit, c'est ce logiciel qui, sans étouffer les textes, sans les manipuler, nous permet d'entendre quelque chose, nous permet de penser, de réfléchir. On a besoin d'un logiciel. On ne peut pas simplement se contenter du texte en tant que tel. Et les Écritures sont un corpus. Et dans ce corpus, on ne nous a pas donné toutes les clés de lecture. Et donc... allons-y, explorons. Il y a peut-être des choses qui sont restées dans l'angle mort dans certaines interprétations passées qu'on peut peut-être aller rechercher pour remettre en avant. Et quand on fait cela, il faut aussi être humble, parce que ça veut dire peut-être qu'on ne met en valeur qu'une seule chose, et attention ne pas de dire « c'est la dernière interprétation possible ». Voilà. Donc le métarécit, c'est ça.
Alors, j'ai deux questions qui me viennent, mais avant, on vient de parler de la fille de Jephté, rappeler en une phrase ce qui se passe pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas cette histoire.
Ah oui, alors c'est une histoire dans le livre des Juges, il y a eu une bataille, et puis Jephté qui dit « à ce moment-là... il fait une promesse, il fait un vœu en disant « La première personne qui viendra à ma rencontre lorsque je reviendrai chez moi, eh bien, Seigneur, pour te remercier de ce que tu m'auras donné sur le champ de bataille, eh bien, je te l'offrirai en sacrifice. » Et malheureusement, la première personne qui arrive, c'est sa fille. Et donc, ça fait penser aussi aux tragédies grecques.
Voilà, Antigone.
Voilà. Donc, du coup, on voit bien que ce texte, il ne faut pas le prendre à la lettre comme si c'était un récit historique, mais en le comparant avec d'autres récits similaires dans les cultures contemporaines, on voit que c'était une question, comme aujourd'hui, par exemple, eh bien, la question de la place de l'égalité homme-femme est une question, comme aujourd'hui, les questions de féminicide sont aussi une question brûlante de notre actualité. De même, à l'époque, il y avait cette question qui était posée, et de voir comment ça a été repris, retravaillé dans le corpus biblique. Mais ça nous demanderait une autre émission.
Voilà, on reviendra là-dessus. Mais alors là, j'ai donc deux questions. Alors, la première, c'est que cette... cette importance donnée au récit, au méta-récit, donc aux mots qu'on met sur des visions, sur des sentiments, est-ce que ce n'est pas en décalage avec une société qui est basée sur l'immédiateté, les messages simples, les réseaux sociaux, etc. Est-ce que vous n'êtes pas un peu à ramer à contre-courant avec méta-récit ?
Oui et non. Alors, oui, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est aussi passé à une autre étape. On est plutôt à l'ère du clash. C'est-à-dire qu'il y a eu la période des stories sur les réseaux sociaux, hein, où on affiche des stories. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a aussi un fonctionnement, un écosystème dans les réseaux sociaux où pour se faire entendre dans le foisonnement des messages, il faut clasher, il faut être dans une attitude de provocation, une attitude qui soit peut-être exacerbée. Et donc, effectivement, le récit, aujourd'hui, il est complètement morcelé. On a Twitter, enfin X maintenant bien sûr, c'est quelques centaines de lettres. Hein, il faut rester concis, c'est pas un récit ça.
Non.
Et le but c'est avec 3-4 mots, clac, on donne un coup de pied dans la fourmilière et puis après ça va faire le buzz et puis il y aura des réactions qui seront tout aussi...
Voilà, ce qui ne rend pas justice au sens de la nuance.
Alors ça de toute façon, le récit permet plus de nuancer les
évidemment,
choses.
Oui, évidemment, oui.
Ceci étant dit, on n'a qu'à voir les séries, les séries sur Netflix. Elles sont toutes construites sur le mode d'un scénario qui a pour but de ne pas conclure une histoire.
Ouais.
Et qu'il faut, à la fin de l'épisode, il faut absolument qu'on ait envie d'aller voir et donc qu'on devienne addict
série. Ce qui est très agaçant, parce que quand ils arrêtent pour des questions de budget, parce que ça, c'est plus rentable, vous restez sur votre faim.
Exactement. Et c'est la même chose aussi au niveau de la littérature.
Ouais.
Il y a des romans.
Ouais.
L'objectif de ces romans, c'est turn a page over. Il faut tourner la page.
Oui, oui, oui.
C'est-à-dire que si vous proposez un manuscrit à un éditeur et un manuscrit qui commence à avoir des longueurs, il va vous dire, mais ça ne va jamais passer. Il faut le muscler, votre récit. Donc, le récit, il fait partie prenante de notre quotidien. Et simplement, cet art de raconter les choses, ça s'appelle aussi, c'est une technique, et ça s'appelle le storytelling.
Oui,
et
d'accord.
Aujourd'hui, les scénaristes, par exemple, à Hollywood, c'est des métiers qui, lorsque la personne est tout à fait alignée sur les attentes de l'écosystème de l'industrie cinématographique, eh bien, c'est une poule aux œufs d'or. Vous écrivez un scénario, et après, vous... Donc, d'écrire un scénario, et simplement le storytelling... Le problème, c'est que l'objectif, c'est non pas de donner à penser, donner à réfléchir. L'objectif, c'est plutôt de captiver le spectateur, c'est de captiver le lecteur.
Alors que le méta-récit va être plus à le libérer, à essayer de libérer sa possibilité de jugement, si j'ai bien compris.
Mais c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire, aujourd'hui, les théologiens sur lesquels j'ai travaillé, c'est des bouquins de théologie, un en allemand, 3000 pages, et un en anglais, plus de 1100 pages.
On va essayer d'y arriver, mais je ne sais pas si on aura le temps.
C'est pas grave, c'est
ça
pas grave.
Rien.
On fera une autre émission.
Ouais.
Mais ce que je voulais dire, c'est que, c'est long récit.
Oui.
Il faut aussi leur donner envie de lire. Il faut aussi vouloir entrer dans la démarche. Et ça, c'est absolument pas garantie.
Ouais.
Donc, il faut quand même arriver à raconter. Simplement, dans mon travail de thèse, j'ai fait un pas de côté en allant m'intéresser aux dramaturges contemporains.
Ouais.
Parce qu'ils ont la même problématique. Et en théâtre, par exemple, ou même dans certains films, l'enjeu, c'est pas de produire un film qui manipule ou endoctrine le spectateur. C'est comment est-ce qu'on peut amener le spectateur ou le lecteur ou l'auditeur à penser. Et donc, les dramaturges, ils ont aussi exploré ce qu'on appelle l'intrigue. Et vous savez que intrigue, en grec, c'est le mutos. Le mutos, ça a donné mythologique, c'est cette façon de raconter les choses. L'intrigue, c'est ce logiciel, justement, qui organise les différents éléments pour en faire une action sensée, qui est compréhensible de tous. En latin, mutos a donné fabula. la fable.
La fable.
Et quand on dit qu'un récit est fabuleux, c'est-à-dire qu'il a une belle fable. Mais fable, aujourd'hui, dans le vocabulaire courant, c'est devenu un mot qui signifie un peu fantasmagorique, un peu fabuleux, un peu hors de la réalité. Or, fable, c'est une bonne façon de raconter les choses. Et les dramaturges postmodernes ont dit, eh bien, arrêtons de fabuler. C'est-à-dire, arrêtons de raconter des récits qui endorment les spectateurs ou qui les manipulent. Il faut les éveiller. Et alors, dans ces dramaturges, il y a bien sûr Bertolt Brecht, qui, avec son théâtre épique, a cherché à rendre une scène en ne cachant pas toutes les coulisses, comment les événements s'agencent les uns aux autres, mais en montrant, de manière à ce que le spectateur puisse dire « Ah, j'ai compris comment ça s'articule ». Donc, il réfléchit et aussi, il n'est pas aspiré dans la fable, mais il a un esprit critique. Parce que être aspiré dans la fable, c'est le propre même des régimes autoritaires, c'est le propre même des discours manipulateurs, complotistes. Et on voit aujourd'hui que c'est d'actualité par rapport à ce qui se passe dans certains pays où c'est un enjeu de récit. Les élections en Moldavie, par exemple, on voit bien, il y a la propagande russe qui a inondé en Roumanie aussi. En États-Unis, ils ont le même problème. Oui. En France, on a aussi ces questions-là. Mais c'est-à-dire qu'ils ont inondé en Moldavie la manière de raconter, de voir la société. Et il a fallu donner aussi des contre-garanties, proposer une alternative crédible pour qu'on ne se laisse pas embarqué dans ces types de récits. Donc les dramaturges, ils ont réfléchi à ça de manière à proposer différents types de fables. Et ce que j'ai fait dans ma thèse, c'est de montrer différentes idées qui sont proposées dans des dramaturges, parmi les dramaturges contemporains. Et au fond, à partir de là, de questionner mes deux théologiens pour voir comment est-ce qu'ils ont construit leur fable, leur mythe, leur mythos, et de voir si leur articulation, elle est suffisamment attractive pour intéresser le lecteur et suffisamment respectueuse pour donner à penser et ne pas happer le lecteur dans un monde.
Alors, avant de rentrer dans ces auteurs, je voudrais poser la seconde question qui m'était venue à l'esprit.
Oui.
Vous êtes secrétaire national à l'évangélisation pour les PUDF.
Oui.
Est-ce que le secrétaire national à l'évangélisation doit utiliser ces métarécits ? Enfin, quelle est la place du métarécit dans l'évangélisation? Est-ce que au moment où on se dit pour attirer les jeunes, puisque c'est le même si c'est absolument
et les moins jeunes.
Même si c'est absolument une formule que idiote et comment dirais-je presque
surannée.
Ouais, enfin tout ce qu'on veut. Est-ce que ce métarécit est adapté à une société qui est quand même sur les choses les plus courtes, les plus slash, les plus flash, les plus tout ce qu'on veut.
Mais justement, c'est tout à fait connecté à l'évangélisation, parce que finalement, évangéliser, c'est quoi ? C'est raconter la bonne nouvelle. Et c'est pas simplement la raconter de manière à ce que ça distrait l'autre, mais c'est que l'autre, la personne qui écoute, entende la libération qu'il y a dans cette bonne nouvelle. Entendre le message qui est joyeux aujourd'hui, c'est que tu n'es plus soumis à une fatalité, tu n'es plus soumis à un destin au niveau écologique aujourd'hui, avec les catastrophes écologiques qu'on entend cet été, là, les incendies qu'on a eus près de chez nous, tout ça. Il y a une forte éco-anxiété. Et là, comment raconter la foi, comment dire la foi, l'espérance de manière crédible, qui ne gomme pas les choses, et évangéliser avant toute chose, c'est pas endoctriner, c'est pas faire un prosélytisme agressif, c'est offrir une vision du monde, c'est proposer un regard qui peut être vu comme et reçu comme sincère et pertinent de la part de celui qui écoute. Et plutôt que de dire parler, évangéliser, c'est que faire du blabla, c'est communiquer dans le sens avec notre avec nos actes, avec notre engagement personnel, et à un moment donné mettre des mots. Donc évangéliser les métarécits, il y a une forte connexion. Parce que aujourd'hui, comment exprimer la bonne nouvelle comment exprimer cette espérance? C'est pas la façon dont qui a été faite il y a 50 ou 100 ans, parce que les problématiques n'étaient pas les mêmes. Il s'agit de ressaisir une inspiration en s'appuyant sur ceux qui nous ont précédés. On est toujours sur l'épaule de géants qui nous conduisent vers l'avenir. Et donc, au bénéfice de ce qui a été fait, eh bien, il nous faut nous aussi ressaisir l'inspiration et proposer quelque chose. Et évangéliser, tel que je le comprends, c'est comme une œuvre d'art. C'est-à-dire d'exposer, de donner à voir une beauté qui rayonne. La beauté de l'évangile. Et beauté dans le sens que la beauté, elle ne contraint pas. Elle éveille, elle attire, elle arrête, elle invite à penser. Et au fond, évangéliser, c'est de faire pressentir cette beauté. Et pour ça, je trouve qu'il faut réfléchir à ses mots, à ses actes, à son engagement. Et en fait, l'enjeu, c'est que des fois, dans les églises locales aujourd'hui, en tout cas dans les églises de l'Église protestante unie que je connais, eh bien, des fois, on est accaparé par un poids historique. On hérite d'un passé, mais on n'est pas sur l'épaule des géants. C'est plutôt ces géants qui...
On est écrasé par les géants, plutôt.
Mais c'est ça, on a des bâtiments dans les Cévennes, dans la Drôme. On a des temples partout. Et on ne sait plus comment les gérer. Et du coup, on passe notre temps à se demander comment gérer tout ça.
Et alors, qu'est-ce que vous avez trouvé dans vos deux auteurs, alors? Puisque vous dites ce qu'il ne faut pas retenir. Enfin, comment il ne faut pas se sentir. Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté, ces deux auteurs? Alors,
il y a tellement de choses.
Et Kelsey. Alors, le premier, donc, il dit que la créature est voulue par un autre que nous-mêmes, ça, oui. On s'en doute, et donc qu'elle porte une détermination.
Oui.
C'est-à-dire qu'on est, en quelque sorte, les instruments de Dieu.
Alors, pas tout à fait. C'est-à-dire que c'est pas nous
Ou
qui
une
nous...
possibilité d'être...
Oui, c'est plutôt une possibilité. C'est-à-dire que nous ne sommes pas les créateurs de nous-mêmes. Nous pouvons agir, mais nous sommes jetés, comme diraient des existentialistes, nous sommes jetés dans l'existence. C'est-à-dire que nous n'avons pas choisi de naître, nous n'avons pas choisi de naître ici, nous n'avons pas choisi de naître maintenant.
Non.
Et donc, la détermination, c'est de dire, il y a plein d'éléments autour de nous, nous n'avons pas choisi la famille, donc il y a plein d'éléments autour de nous qui nous déterminent, c'est-à-dire pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire qu'il y a des déterminations qui sont valorisantes, ça nous stimule, ça nous éveille, mais il y a des déterminations qui nous étouffent. Donc nous sommes déterminés. Et par rapport à Hermes, il dit la liberté de l'humain, c'est de voir les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire d'écouter ce qui se passe autour de moi, d'essayer de comprendre, et de comprendre comme un long processus jusqu'à ce que ce soit vraiment adapté à la réalité. C'est pas de dire j'ai compris en pensant que ce que j'ai compris correspond à la réalité, et puis si ça marche pas, eh ben j'évacue les problèmes. Non, je me laisse toujours rencontrer par tout ce qui m'arrive, et petit à petit, d'essayer de comprendre la contingence. Qu'est-ce qui fait ?
Alors, qu'est-ce que c'est que la contingence ?
Eh bien, c'est le fait que... pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?
Et alors, votre second auteur...
Ah, d'accord.
Ah ben, je sais...
Ah, ça vous donne... Ça vous coupe la...
Non, mais...
contingence,
c'est... Il y a quelque chose plutôt que rien.
Mais oui, mais ça veut dire que c'est extraordinaire, Yolande.
D'accord.
Et vous vous rendez compte ? Vous auriez très bien pu ne jamais exister si vos parents ne s'étaient jamais rencontrés. Eh bien, c'est la même chose pour moi, c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Et si on remonte dans l'histoire, on pourrait voir aussi que la planète Terre, c'est... On sait qu'il y a des exoplanètes.
Oui.
Et donc, il se peut très bien qu'il y ait de la vie ailleurs, mais peut-être pas la même vie qu'ici. Donc, cette vie qu'on a, elle est fragile, elle est belle, elle est contingente. Et au fond, comment accueillir cette contingence quand on est face à la mort? Quand on est face à la naissance? La naissance nous rappelle que c'est fragile. La mort nous rappelle que c'est fragile. L'amour, quand on rencontre quelqu'un, puis qu'on se dit, mais comment ça se fait qu'on s'est rencontré et que ça a connecté, c'est contingent. Et donc, là, il me semble qu'aujourd'hui, la foi, c'est de penser, de vivre, de s'émerveiller de cette contingence. Et donc, Hermes nous invite à ça.
Alors, on n'aura plus le temps de voir
deuxième.
Mais c'était passionnant et j'espère que mes auditeurs, que nos auditeurs ont pris autant de plaisir que j'en ai pris à vous écouter. Alors, je vous remercie, Luc Olivier.
Mais merci de l'invitation.
Je remercie les réalisateurs qui sont derrière la vitre, Léonie, Stéphane. Et
mais la prochaine fois, il faut que Léonie vienne voilà. là, hein, pour philosophe
et,
Léonie.
Et donc, je donne rendez-vous à nos auditeurs eh bien, la prochaine fois. Voilà, au revoir.
Au revoir.
Thème et Anathème, une émission proposée par Yolande Gounel.